Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Ce n'est pourtant que le 17 octobre 2006 qu'Éric Belaoui est entendu pour la première fois par Valérie Chatner, commandante de police à la direction interrégionale de la police judiciaire à Dijon, 3 ans après le témoignage de Michel. Suivront les interrogatoires de Jean-Yves Falconieri et de Jean-Pierre Murat. Suite à ces propos incohérents, Jean-Pierre Murat, 44 ans, est placé en garde à vue le 28 mars 2007. On le questionne sur les déclarations de Bartolo. Murat répond qu'il est malade, atteint de schizophrénie, et que lorsqu'il boit ou fume, il raconte n'importe quoi. Son dossier médical fait d'ailleurs apparaître plusieurs hospitalisations et des propos hallucinatoires depuis la fin des années 80. Plusieurs témoins indiquent que Murat démontre depuis plusieurs années une forme d'obsession pour le meurtre de Christelle Maïri. Il délire, décident pourtant les policiers. 7 heures plus tard, Murat est calme, on le libère après avoir recueilli son ADN. Une perquisition est menée à son domicile et dans son véhicule. On place 2 couteaux sous scellés. Le 22 septembre 2008, nouvelle clôture d'enquête par la PJ, qui estime avoir fait le tour de la question. Le juge Vion n'abandonne pas, pas plus que l'association Christelle, par la voix de son avocat. Le directeur d'enquête change et l'on nomme Raphaël Nedilko en tant que chargé principal en mars 2009. Il vient d'arriver à Dijon, c'est un ancien de la crime à Paris. Il est méticuleux, pour ne pas dire pointilleux, et déterminé à boucher les trous de cette affaire. Emmanuel Vion ordonne une nouvelle commission rogatoire en avril. Comme Éric Belaouel avant lui, Raphaël reprend tout depuis le début, absolument tout. Il compile également chaque élément, ce qui a pu être écrit dans la presse ou repris à la télévision. Il veut différencier les informations restées confidentielles de celles qui ont fuité. Tout de suite, apparaissent les mêmes questions non résolues. Qui savait que Christelle finirait exceptionnellement à 11h ce jour-là? Qui savait qu'elle était blessée à la main? Comment s'est-elle blessée? Qui savait que le grand-père était à l'hôpital? Quel trajet Christelle a-t-elle emprunté pour rentrer? À quelle heure est-elle arrivée aux Charmilles? Après avoir rassemblé questions et maigres indices, Raphaël Nedilko demande à rencontrer Marie Pichon, la maman de Christelle. Celle-ci est réticente à l'idée de voir un nouvel enquêteur. Elle appréhende une nouvelle déception, de nouvelles promesses non tenues. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit, et Marie se fait glaçante. Raphaël ne lui fait qu'une promesse, celle de faire tout ce qu'il peut. Marie le reçoit chez son aîné, Pascal, le 27 juillet 2009. Au fil de la conversation, une relation se noue. La confiance n'est pas encore là, mais Marie se décrispe peu à peu. À sa demande, elle confie les bijoux de Christelle à Nedilko. 24 ans plus tard, il ne restera peut-être plus rien, mais cela vaut la peine de tenter une recherche ADN dessus. Autre élément récupéré, une copie de maths de la jeune fille, réchappée de la perquisition et du grand ménage de Marie. Elle date du 11 décembre 1986. Dans la tête de Raphaël, un premier déclic se fait. Cette date, c'est celle où Christelle dit avoir séché les cours pour boire avec Marilyn. Elle n'a pas pu assister à cet interro et se saouler au bar en même temps. L'après-midi avec le frère, le réveil comateux, tout ça n'était qu'une invention de Christelle pour se venger de l'infidélité de son amoureux. Si personne ne connaît Marilyn, et si les enquêteurs ne l'ont pas retrouvée, ce n'est pas parce qu'ils ont mal cherché, mais simplement parce qu'elle n'existe pas. Un mystère résolu, certes, mais une autre piste refermée. Il faut éclaircir d'autres points. La blessure à la main, par exemple. Christelle avait accompagné Marie quelques jours avant son assassinat pour distribuer des prospectus. Gérant d'une station-service, Yves et Marie joignaient tout juste les deux bouts. Christelle les aidait volontiers dès qu'elle le pouvait en lavant quelques pare-brises. Le jour de cette distribution, un ami de Christelle les accompagnait. Celui-ci a fermé par accident sa portière de voiture sur les doigts de la jeune fille. Voilà donc quelqu'un qui savait pour la blessure. Grâce aux indications de Marie, l'enquêteur retrouve le jeune homme et l'interroge. Il est clair qu'il n'est pour rien dans le meurtre de Christelle. Celui-ci s'en veut même encore de lui avoir fait du mal. Si elle n'avait pas été blessée, elle n'aurait pas été dispensée de sport, ne serait pas rentrée seule ce jour-là, ne serait pas morte. La culpabilité est quelque chose de tenace, même 25 ans plus tard. Les jours passent et arrive le rapport de Jacques Midali, l'expert en écriture. il a comparé le tracé des cartes postales de 1987 avec l'écriture de 10 suspects dans l'affaire. Parmi eux, Michel Bartolo, David Cayeté, Jean-Pierre Murat, Éric Benzoni, Jean-Luc Loiseau et Jean-Yves Falconieri. Pour lui, celle de Jean-Luc Loiseau laissée sur les PV d'audition colle vraiment. L'ADN ne donne rien, mais celui de Loiseau n'a jamais été prélevé. Après une recherche au fichier, on s'aperçoit que celui-ci est décédé en décembre 1987, exactement un an après Christelle. De plus, ce n'est pas une mort naturelle, mais un suicide. Culpabilité ? On envisage d'exhumer le corps. Auparavant, Nedilko interroge son frère et demande à avoir accès au dossier médical du défunt suspect. Le frère de Jean-Luc explique qu'il aurait été impossible à son frère de tuer la jeune femme. Jean-Luc avait eu un accident de mobylette peu avant les faits. Il était tout simplement dans l'incapacité physique de maîtriser la jeune femme. Vérification faite, une autre piste s'éteint. En février 2010, une femme écrit à l'association Christelle. Elle dénonce son ex-petite amie comme étant l'auteur probable du meurtre. L'homme en question est Alain Raymond, auteur de nouvelles. Le meurtre de l'un de ses personnages présente d'étranges similitudes avec celui de Christelle. La jeune héroïne est tuée de plusieurs coups de couteau, dont un premier porté par l'arrière et perforant le poumon. Une fois la victime au sol, le meurtrier s'acharne. Détail troublant, avant d'agresser la jeune femme, il la fait taire avec un lacet autour du cou. Nedilko se renseigne, rencontre l'homme à son domicile. L'auteur porte les cheveux mi-longs et souffre de schizophrénie. Il est régulièrement hospitalisé. Après vérification, il travaillait en Seine-Saint-Denis le jour du meurtre. Nouvelle piste aussitôt écartée. Un mois plus tard, le 9 mars 2010, le commissaire du Creusot reçoit un coup de téléphone anonyme. « Je sais qui est l'assassin de la jeune fille de la Charmille. Voilà l'immatriculation de la plaque minéralogique de sa voiture. » Il la donne et raccroche. Nedilko a tellement retourné le terrain que les policiers du Creusot le contactent immédiatement pour lui transmettre l'info. L'appel vient d'un téléphone prépayé acheté en liquide, intraçable. La voiture appartient à une dame dont la vie est épluchée en secret. C'est une citoyenne irréprochable. La fadette du téléphone prépayé montre des appels vers le service des tutelles et curatelles du 71, une boutique pour animaux de chalon et un service d'entretien du chauffage. Aucun lien avec la propriétaire du véhicule. Ça sent la nouvelle fausse piste. Pourtant, le juge Vion transmet à Nedilko une lettre anonyme qu'il vient de recevoir. Le fond est peu intéressant au regard de la forme. Tout de suite, en lisant cette écriture particulière, Raphaël Nedilko éprouve une impression de déjà-vu dérangeante. Prégnante au point qu'il se rassied à son bureau et rouvre le dossier d'enquête, et en feuillette une à une les pages. Cette écriture, il l'a déjà vue, il en est certain. D'un coup, elle est là, sous ses yeux. Il s'agit de l'écriture de Jean-Pierre Murat, celui qui a été interrogé en 2007 suite aux révélations de Michel Bartolo, celui qui a été relâché parce que considéré comme trop délirant. Jean-Pierre Murat habite l'immeuble dont le service d'entretien du chauffage a été contacté par le téléphone prépayé. Comme chacune des pistes précédemment explorées, Nedilko ne néglige rien. Il s'attelle donc à retracer le parcours de vie de son nouveau client. En 2010, Murat a une quarantaine d'années. Il est connu des services de police pour quelques petits trafics et une condamnation pour détention d'armes de 6e catégorie, un couteau. Il travaille peu ou pas, vit du RSA. En 1986, il habitait avec son frère Joseph dans une maison de ville du Creusot. A priori, Giovanni Murat, le père, était ouvrier industriel et connu pour délirer, comme son fils. La famille Murat avait vécu dans le quartier des Charmilles. Jean-Pierre y a gardé des fréquentations. Plutôt que d'auditionner immédiatement Jean-Pierre Murat, Nedilko décide de convoquer son grand frère début avril. Lorsque l'inspecteur indique le motif de sa convocation à Joseph, ce dernier lui fait une réponse surprenante. « C'est vrai qu'à l'époque, j'ai demandé à mon frère s'il n'était pas le meurtrier, mais il m'a dit que non. » Joseph a donc soupçonné son frère, Creusot. Aux Charmilles, Jean-Pierre était ami avec Tony Nofro, qui habitait juste au-dessus de l'appartement de Christelle Maïri, mais aussi Éric Benzoni et Michel Bartolo. Adolescent, il a été impliqué dans des cambriolages de caves de la cité, et pour consommation d'alcool et de stupéfiants. la famille Murat déménage au début des années 1980. Joseph et Jean-Pierre reviennent souvent voir leurs copains. Ils traînent en bande, généralement par tranche d'âge, au pied des immeubles. Joseph avec ses copains, Jean-Pierre avec les siens. D'ailleurs, Joseph connaît bien Pascale, la grande sœur de Christelle. Mais Jean-Pierre connaissait-il Christelle ? Dans un moment où il était lucide, il m'a dit qu'il avait déjà rencontré Christelle, mais qu'il ne la connaissait pas plus que ça. Ça lui arrive de dire n'importe quoi avec sa maladie. Une fois, il a dit qu'il avait été attaqué par des extraterrestres. D'ailleurs, il est sous tutelle. Tilt, c'est le déclic dans l'esprit de Nedilko. Jean-Pierre Murat habite actuellement l'immeuble au problème de chauffage. Et voilà maintenant qu'on apprend qu'il dépend du service des tutelles du 71. Les pièces commencent à s'emboîter. Est-ce que Jean-Pierre a un chien ? Joseph répond que non, mais que son frère nourrit tous les chats errants du quartier avec de la pâtée, alors qu'ils ont eux-mêmes à peine de quoi vivre. Joseph continue de parler. Jean-Pierre a peu à peu perdu le contact avec ses amis car il délire plus régulièrement, va plus loin, perd la notion de la réalité. Aujourd'hui, il est hospitalisé en psychiatrie suite à des actes violents dans une station-service. Tilt, encore un déclic. Les parents de Christelle tenaient une station-service. Joseph développe. Lorsque Jean-Pierre est passé devant la station du rond-point Renjan, il a entendu des voix dans sa tête qui répétaient « Murat, t'es un fils de pute !» Alors il est entré dans la station-service, s'est acheté une bricole et lorsque la caissière lui a rendu sa monnaie, il a brandi un grand couteau papillon, en hurlant « Arrêtez de m'insulter, moi et ma mère !» L'employée, Brigitte, a raconté ces faits dans un PV d'interrogatoire. « Cet homme ne me semblait pas du tout dans son état normal. Il m'a dit qu'il entendait des voix qui l'insultaient et m'a demandé de faire le nécessaire pour que cessent ses insultes. Il a fallu rester calme. J'ai causé avec lui pour le calmer. J'ai craint qu'il ne s'en prenne à moi physiquement. » Il avait le regard perdu, cet homme. Il est ensuite ressorti du commerce, attendant sur le parking. L'employé a aussitôt appelé la police, considérant l'homme dangereux. Jean-Pierre s'est laissé arrêter calmement. Il a été placé en garde à vue, puis interné d'office au centre hospitalier de Sévray, ayant été jugé inapte à la cellule. Ça s'est passé quand ? La semaine dernière, 29 mars 2010.